Écho sans frontières, Magali Homo, Romain Chanson, sur Média.
Si vous étiez une marchandise, vous devriez rentrer sur le continent africain en passant par une porte nommée Bolloré.
Le groupe Bolloré, c'est 25 ports gérés par la filiale Bolloré Transport et Logistique. C'est aussi le chemin de fer, l'électricité, les plantations de palmiers à huile et DVA, les télécoms et le divertissement.
L'Afrique, c'est le continent d'avenir, aime à dire Vincent Bolloré, qui réalise un quart de son chiffre d'affaires, bien aidé par ses amis les ministres et les chefs d'État qu'il tutoie, au point de faire naître de lourds soupçons de corruption dans l'attribution de certains ports. En avril 2018, Vincent Bolloré a été placé en garde à vue et mis en examen pour corruption d'agents publics. La justice veut savoir s'il a favorisé la prise de pouvoir des présidents guinéens et togolais en dirigeant leur campagne électorale via l'agence de communication Havas en échange de la concession des ports.
Les méthodes du groupe relèvent plus du commando que de l'armée régulière, confiait Vincent Bolloré himself au journal Le Monde. Les ministres, on les connaît tous là-bas, ce sont des amis. Voilà ce qu'affirmait le directeur général du groupe, Gilles Alix, en 2008 au journal Libération. Mes amis, mon Afrique, mes embrouilles, émission spéciale sur le groupe Bolloré. Et pour parler de l'empire africain de Bolloré, nous serons en ligne dans quelques minutes avec Héloïse Mollet. Elle travaille pour l'ONG React, qui défend les citoyens et les travailleurs face aux multinationales. Une filiale du groupe Bolloré au Cameroun est accusée de s'accaparer les terres des populations pour cultiver de l'EVA et des palmiers à huile de manière extensive. Nous téléphonerons également à Olivier Calin, il est journaliste à Jeune Afrique, il est spécialiste des questions de transport et de logistique, c'est le cœur du modèle Bolloré. Mais avant les témoignages et les analyses, Magali, vous allez nous présenter ce que c'est le groupe Bolloré.
On est dirigé par Vincent Bolloré, présent dans le top 10 des plus fortunés de France. Bolloré, c'est tout un empire qui ne s'est pas construit en un jour. C'est en 1822 que l'entreprise voit le jour.
L'histoire du groupe Bolloré a commencé en 1822 sur les bords de l'Audet en Bretagne, près de Quimper. Il est difficile de résumer 195 ans d'histoire en quelques minutes. Longtemps spécialisé dans la fabrication des papiers fins, le groupe a su évoluer au cours des deux derniers siècles en traversant des guerres et des révolutions technologiques et en faisant face à des évolutions techniques et sociales très importantes. Passant du papier fin au film plastique, depuis plus de 30 ans, les équipes de Bolloré ont fait le choix de se diversifier afin d'assurer une meilleure répartition des risques. Sa stratégie d'innovation constante et sa volonté de développement à l'international lui permettent d'occuper aujourd'hui une position forte dans chacune de ses activités. Le transport et la logistique, la communication et les solutions de stockage d'électricité.
Voilà, alors je vous épargne les 8 minutes de cette vidéo institutionnelle. Vous pouvez la trouver sur le site internet du groupe. Pour résumer, de la petite entreprise de papier fin, aujourd'hui, Bolloré, c'est plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. C'est 55 000 personnes employées à travers le monde. On le retrouve dans beaucoup de secteurs. Alors d'abord, le papier pour les cigarettes, par exemple. OCB, c'est Bolloré. Ensuite, le groupe fait beaucoup dans le stockage de l'énergie. Il y a aussi donc le transport et la logistique, l'agriculture et puis les médias et le divertissement. Canal+, ça lui appartient. Vincent Bolloré, qui est à la tête de l'entreprise, veut toucher à tout et c'est peut-être ça qui a fait sa fortune.
Alors on est parti de Bretagne, mais Bolloré, c'est aussi une histoire africaine.
Oui, sur les 54 pays que compte le continent, le groupe Bolloré fait du business dans 46. Il a jeté son dévolu sur l'Afrique dans les années 80, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Abidjan. Le milliardaire nous fait voyager de port en port, de porte-conteneurs en terminaux portuaires. Une activité très lucrative car 92% des imports-exports en Afrique se fait par voie maritime. Contrôler les ports, c'est donc contrôler le commerce, d'autant qu'en 10 ans, les volumes échangés entre l'Afrique et l'Asie, par exemple, ont considérablement augmenté.
Alors, il y a les ports et après les ports, il y a les chemins de fer.
Voilà, la ligne entre Abidjan et Ouagadougou, c'est lui. Camaraï au Cameroun, c'est lui aussi. Vous vous souvenez sûrement de l'accident des Eka en 2016. 79 personnes avaient perdu la vie dans le déraillement d'un train. La justice camerounaise a reconnu la filiale Bolloré coupable d'homicide involontaire. Alors, outre les transports, la logistique, Vincent Bolloré met aussi son nez dans l'huile de palme. On va en parler plus en détail. Et comme si ce n'était pas suffisant, en juin 2016, le milliardaire multicasquette a ouvert une salle de ciné à Yaoundé, donc au Cameroun. Et en Guinée, c'est un centre digital et sportif qu'il a inauguré. Alors, ces 8 dernières années, Vincent Bolloré aurait investi 2 milliards d'euros sur le continent. Un bel investissement puisque le chiffre d'affaires du groupe en Afrique s'élève à 2,5 milliards d'euros, soit le quart du chiffre d'affaires de l'Empire.
Merci Magali. Bolloré, c'est aussi la Socfin. Le groupe français détient 39% de la firme agro-industrielle qui est basée au Luxembourg. La Socfin possède la Socapalm, plus grande entreprise d'huile de palme du Cameroun, qui fait travailler plus de 6000 personnes, mais seulement un tiers sont des salariés directs. L'ancêtre de la Socapalm, c'était la Compagnie nationale des palmeraies, censée favoriser le développement des campagnes camerounaises. Mais aujourd'hui, la Socapalm, c'est une entreprise privée au chiffre d'affaires de 72 millions d'euros en 2016. Une entreprise qui a perdu sa vocation de développement au profit des populations locales. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Héloïse Mollet. Bonjour madame.
Bonjour.
Héloïse Mollet, vous travaillez pour l'ONG REACT qui a été créée en 2010. Vous avez notamment pour mission d'aider les travailleurs mais aussi les citoyens à s'unir, des citoyens qui sont victimes d'abus des multinationales, des grandes entreprises. Et vous les aidez à créer des formes de communautés de combat, notamment pour avoir une lutte plus efficace. Et parmi vos combats, la question de l'accaparement des terres, notamment au Cameroun. Alors depuis 2008, la résistance des populations s'organise contre ces plantations industrielles, notamment de palmiers à huile et d'EVA. Et c'est là justement que le groupe Bolloré entre en jeu. Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément?
Donc effectivement, il y a plusieurs monocultures à grande industrie de palmiers à huile et d'EVA dans plusieurs pays en Afrique, mais aussi en Asie, qui appartiennent au groupe Socfin, dont le groupe Bolloré est un des actionnaires principaux, donc à 38,9%. Les principaux problèmes, c'est qu'il y a des conflits avec les communautés riveraines des plantations sur l'occupation des terres, principalement. Sur la manière dont les implantations ont été faites, souvent sans consultation, sans accord des villageois qui occupaient, utilisaient ces terres. De manière parfois récente, comme en Sierra Leone par exemple, où l'implantation de la Socfin a été faite en 2011, ou il y a plus longtemps comme au Cameroun, ou au Liberia, donc au Cameroun, une entreprise d'État existait depuis 1978 et a été privatisée en 2000 et reprise par le groupe Socfin. Mais Bolloré est également actionnaire direct de la Socapalm au Cameroun. La situation donc varie selon les pays, mais souvent les conditions d'implantation et le bail amphithéotique même est discuté avec l'État, les autorités locales, avec un grand manque de transparence et d'implication des personnes directement concernées. Les promesses parfois ont été faites, mais très peu tenues. Globalement, en plus de ces tensions foncières, donc parce que les gens utilisaient les forêts pour la chasse, la cueillette, les terres pour l'agriculture vivrière. Il y a des problèmes de pollution autour de ces plantations, avec les produits chimiques qui sont utilisés soit dans les usines pour la transformation, soit directement dans les plantations, donc qui touchent beaucoup les rivières, qui sont pourtant utilisées pour la pêche ou même l'eau pour la consommation. Et également est dénoncé par les riverains un manque de compensation par rapport aux cultures détruites. Les villageois avaient sur ces terres souvent des propres cultures vivrières, des fois de coco, de manioc, etc., qui ont été soit mal, soit pas du tout compensés. Il y a aussi des tombes, des lieux sacrés qui ont été détruits, des cimetières entiers qui ont été détruits par les bulldozers pour pouvoir mettre en place ces plantations. Donc voilà, suite à tous ces problèmes, il y a beaucoup de besoins qui ont été exprimés, et notamment par rapport aux promesses un peu de développement qui avaient été faites, donc exprimées en termes d'infrastructures, par rapport à l'éducation, la santé, les routes pour l'accès au village, l'accès à l'eau potable ou à l'électricité. Et donc, ces demandes ou ces promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues.
Eh bien, merci beaucoup, Héloïse Mollet. Je rappelle que vous travaillez pour l'ONG REACT. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Le groupe Bolloré en Afrique, on continue d'en parler dans quelques minutes avec le journaliste Olivier Calin, juste après Afrobi et son morceau Drogba.
Give me life, oh, hey life, hey. When they play me like Drogba, ho, Drogba, ho. How you gonna do me like Drogba, ho, Drogba, ho? Oh, DJ Drogba, ho, Drogba, ho. Hey, DJ Drogba, ho, Drogba, ho. Joanna, your busy body, busy tonight. Joanna, making all the dummy tonight.
D'origine ivoirienne, représentant de l'Afro Wave, c'est Afrobi avec le titre Drogba. Eco Sans Frontières poursuit son exploration dans l'Empire Bolloré.
Bolloré, transport et logistique, c'est le leader incontesté de la manutention portuaire en Afrique francophone, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique. Nous sommes en ligne avec l'un de ses journalistes, Olivier Calin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, spécialiste des questions de transport et de logistique. La semaine dernière, on a appris que le groupe Bolloré perdait la concession du terminal à conteneurs du port de Douala au Cameroun. La concession, elle s'achève à la fin de l'année 2019. Elle ne sera pas reconduite pour Bolloré. On ne connaît pas encore le futur repreneur. Est-ce que vous savez, vous, ce qui a motivé justement cette rupture? Est-ce que ça illustre un début de perte d'influence au niveau des ports pour Bolloré?
Il semblerait que ce soit des problèmes d'argent, en quelque sorte. Bolloré n'aurait pas payé tout ce qu'il aurait dû payer dans le cadre des concessions. Bon, même si ça, on n'a pas encore tous les éléments bien établis. Il a été épinglé à Owendo, au Gabon, il y a quelques mois pour des faits assez similaires. Donc voilà, de là à dire que Bolloré est en difficulté sur la côte ouest-africaine, je n'irai pas jusqu'à là, mais peut-être que ça va en tout cas le pousser à revoir certaines des pratiques qui étaient jusqu'alors usitées entre le concessionnaire portuaire et l'autorité publique.
Alors vous parlez du Gabon, en effet, l'Office des ports et rades du Gabon réclame 12 millions d'euros à Bolloré. C'est le genre de facture qui peut aussi un peu ternir les relations entre Bolloré et les pays africains dans lesquels il est installé.
Oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, déjà, les relations restent toujours un peu complexes et étendues. On est sur un secteur portuaire qui pèse quand même très, très, très lourd dans le commerce extérieur de ces pays, donc qui joue un rôle politique aussi, notamment dans le maintien d'une bonne santé économique. Donc, un gestionnaire de port, c'est pas un acteur économique comme les autres, c'est forcément quelqu'un de poids. Et donc forcément, il va y avoir des zones de conflit en fonction des intérêts avec les États. Bolloré est assez coutumier du fait, des prises de pouvoir en Guinée, des prises de pouvoir, de port, je vais dire, un portuaire au Togo. Il y a toujours eu des petites parts d'ombre dans toutes les concessions. Bolloré a quand même la particularité d'avoir remporté pratiquement toutes ses concessions de gré à gré, très très peu de concessions par appel d'offres. un peu plus ces derniers temps, parce qu'évidemment, les bailleurs de fonds réclament ces appels d'offres. Donc, Bolloré est obligé de suivre, et les États sont obligés de se mettre aux normes, et donc on assiste de plus en plus à des appels d'offres. Mais la période de gloire, entre guillemets, de Bolloré, c'est dans les années 2000, et là, tous les ports qu'il ramasse à ce moment-là sont passés de gré à gré, avec des accords donc qui concernent uniquement l'autorité publique et le concessionnaire, dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et voilà, on est peut-être en train de découvrir parfois que dans le cadre de certains contrats, il y a en effet des accords qui sont passés, qui sont peut-être pas tout à fait réguliers. Mais voilà, on rentre aussi dans une mise en place de normalisation du secteur portuaire, qui était quasi inexistant il y a 15 ans et qui est devenu aujourd'hui très très moderne, voire un des plus modernes secteurs économiques du continent aujourd'hui.
Alors vous parlez très justement de zones d'ombre, hein. L'activité des ports, c'est à peu près aujourd'hui la plus problématique pour le groupe Bolloré, puisque Vincent Bolloré a été mis en examen et après 48 heures de garde à vue, hein, c'est assez rare. Sa filiale donc à la holding Bolloré SA est également mis en examen pour des soupçons de corruption dans le cadre de l'obtention des concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. On parle ici de Lomé et de Conakry pour corruption d'agents étrangers. Alors aujourd'hui, l'activité portuaire, c'est quand même la plus puissante, mais on peut dire aussi la plus problématique pour le groupe.
C'est la plus puissante, c'est la plus visible, c'est la plus problématique parce que c'est la plus visible et puis parce que, comme je vous le disais, on touche sur un secteur stratégique. Il est hors de question que les pays donnent des ports clés en main à des acteurs privés. C'est beaucoup trop périlleux pour un État. Donc il y a beaucoup d'intérêts qui peuvent être parfois contradictoires et en effet, il y a certainement eu des pratiques à un moment donné qui, même si les faits de corruption ne sont toujours pas établis, on entend beaucoup de bruit depuis toujours concernant les pratiques de Bolloré en Afrique en particulier, mais bon, jusqu'à présent tout ça n'est resté que de l'ordre du soupçon. Voilà, maintenant en effet il y a des mises en examen depuis l'année dernière, mais bon, on va attendre de voir exactement ce qui se passe. Et les mises en examen ne concernent pas fondamentalement la mise en concession du port, elles concernent davantage le soutien à des activités politiques ou des choses comme ça dans le cadre des mises en concession. Mais voilà, le lien n'est pas établi et les faits mêmes ne sont pas établis non plus, donc il faut rester très prudent. Après, Bolloré, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir été certainement le seul industriel à s'être intéressé au secteur portuaire à un moment donné où personne ne s'y intéressait. Il n'a certainement pas investi les sommes qu'il avance. Il parle de 4-5 milliards d'euros investis pendant toutes ces années. On est certainement beaucoup plus proche de 2,5 milliards, mais c'est déjà une somme énorme. Et ça a permis quand même de mettre aux normes internationales les ports africains, notamment sur la côte ouest africaine, et les autres sont venus après. Mais je veux dire, si Bolloré n'avait pas été là pendant un certain temps, les ports, on serait certainement pas actuellement au niveau technologique, au niveau technique où ils sont actuellement, sans les contributions de Bolloré. Donc voilà, il y a toujours le pour et le contre. La manière dont il a remporté ses concessions peut en effet poser problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'il a eu les concessions, il a vraiment mis en place des outils modernes et industriels qui sont complètement adaptés au secteur maritime d'aujourd'hui.
Alors on a vu la question des ports, on voit aussi la question des rails. Est-ce qu'il y a un coup d'arrêt dans les ambitions au niveau du train par rapport à Bolloré, avec justement la perte de ce grand dossier de la boucle ferroviaire ouest-africaine?
Il semblerait, oui. Bon, il est aussi malmené au Cameroun, hein, comme vous le savez, il y a eu cet accident qui a causé beaucoup de morts. Il semblerait que la société Bolloré soit elle-même mise en cause. Donc au Cameroun, ça ne marche pas très bien. Et en effet, il a perdu cette boucle. Mais bon, il a perdu cette boucle. D'abord, elle n'aurait certainement jamais dû lui revenir. Bolloré, ce n'est pas un opérateur ferroviaire. C'est pas un constructeur, c'est pas un investisseur capable de mettre 10 milliards de dollars pour construire un investissement lourd. Donc, je pense, et ça m'a un peu été confirmé, je veux dire, par les gens de chez Bolloré, l'intérêt de Bolloré, c'était que cette ligne voit le jour. Lui s'est mis dans le projet en disant, voilà, bah, de toute façon, moi j'y vais, je lance. Le projet lui a été retiré, mais le plus important pour Bolloré, c'est qu'il a été donné à quelqu'un d'autre, notamment aux Chinois, et que donc, quoi qu'il arrive, cette ligne va voir le jour. Au final, que Bolloré soit opérateur ou pas de la ligne, c'est pas très important. Le plus important pour lui, c'est qu'il puisse utiliser un équipement moderne qui lui permette de pouvoir toucher l'intérieur, comme on en parlait juste avant. Donc, je pense pas que Bolloré avait de grosses ambitions dans le ferroviaire, en dehors des lignes qu'il possède déjà en Côte d'Ivoire et au Cameroun. si vous me posez la question clairement, je pense pas que Bolloré soit très triste aujourd'hui d'avoir perdu la gestion de la boucle. Voilà.
Alors, le groupe Bolloré, il est surtout présent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous avez rencontré pour Jeune Afrique, Olivier Calin, Philippe Labonne, qui est directeur général adjoint de BTL. Vous l'avez demandé pourquoi le groupe, il ne gère pas de terminaux en Afrique orientale ou en Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? C'est une bonne question, ça.
L'Afrique du Nord, bon, c'est vraiment pas leur zone. En fait, et puis l'Afrique de l'Est, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. D'abord, tout le monde connaît Bolloré dans la zone francophone. Bolloré est quand même beaucoup moins connu dans la zone anglophone. Et puis les mises en concession portuaires n'ont pas du tout eu lieu sur la côte orientale comme elles ont eu lieu sur la côte ouest-africaine. Il y a très peu de gros ports de l'autre côté. Il y a Djibouti, il y a Mombasa et puis il y a les ports sud-africains. Bon, il ne va pas rentrer dans les ports sud-africains. Il est sur Mombasa, mais Mombasa, ça fait des années que le projet s'enlise. Rien ne voit le jour. Et puis à Djibouti, de manière assez incompréhensible à l'époque, il ne s'est pas du tout intéressé aux ports. Il a laissé DP World prendre place. Et quand il s'y est intéressé, bah, il était trop tard. Bon, Djibouti, ça reste un petit peu une énigme. Il a essayé de rattraper le coup à Berbera, mais ça n'a pas fonctionné non plus. En fait, je crois que la grosse différence entre l'Est et l'Ouest, c'est qu'à l'Est, on passe forcément par des mises en concession sur appel d'offres. Alors que pendant très longtemps, comme je disais quand j'ai démarré cet entretien, à l'Ouest, pendant très longtemps, Bolloré s'est contenté de passer des accords de gré à gré. Voilà, les conditions de mise en concession étant différentes, Bolloré n'était peut-être pas suffisamment bien équipé, il a peut-être pas les mêmes, il a certainement pas les mêmes réseaux dans l'Est qu'il avait dans l'Ouest. Donc voilà, il n'a pas les concessions portières, mais ça n'empêche pas d'être un logisticien très présent sur place.
Alors pour terminer cet entretien, Olivier Calin, est-ce qu'on peut passer ensemble en revue peut-être les autres activités qui, à vos yeux, sont importantes aujourd'hui et pour l'avenir même du groupe Bolloré en Afrique? Donc il y a les plantations, il y a le divertissement. Vous, qu'est-ce que vous retiendrez peut-être des activités que vous sentez être en développement aujourd'hui?
On peut reconnaître à Bolloré le sens d'être dans l'histoire. C'était le cas avec les ports. Je trouve que c'est un peu le cas actuellement avec l'énergie. Il s'intéresse beaucoup au solaire, à l'énergie électrique. Bon, tout ça reste encore assez anecdotique, mais il a certainement une carte à jouer. Il ne le fait pas de manière désintéressée. Hein. Il est patron aujourd'hui, il a dit, d'un grand groupe de divertissement, comme vous en parlez. Donc il a tout intérêt à apporter l'énergie dans les campagnes africaines pour que les Africains puissent à leur tour consommer de la musique, du film, etc. etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller avec un peu plus d'attention dans les prochaines années. Mais je pense quand même que la priorité de Bolloré en Afrique reste du domaine du transport et notamment de la logistique, comme on l'a parlé tout à l'heure. Tout ce versant terrestre qu'il va falloir développer. Et Bolloré est bien conscient que si ce n'est pas lui qui le fait, les autres le feront. Les Chinois s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Il y a d'autres opérateurs européens, notamment dans la foulée des compagnies maritimes CMA-CGM, Maersk ou MSC, qui eux-mêmes sont en train de développer leurs propres services. Donc si Bolloré veut conserver la main, il a tout intérêt à investir de plus en plus et à s'investir de plus en plus sur ce terrain-là. Une autre question qui mérite d'être posée actuellement, que je me permets de poser en tout cas, c'est quid de la stratégie suivie par Cyril Bolloré? Parce que le gros changement dans le groupe ces dernières années, c'est la réorganisation à la tête du groupe. Les filiales ont été redistribuées. C'est plus géographique comme ça l'était avant, mais c'est vraiment maintenant par métier. Et tout ça a été confié à ses fils, notamment la branche transport à Cyril. Donc pour l'instant, on ne connaît absolument pas la stratégie, ni les visions, ni vraiment les compétences, si je peux me permettre, l'expertise de Cyril Bolloré en matière de transport et de logistique. Donc ça, c'est des choses qu'il va vraiment falloir aussi suivre avec beaucoup d'attention. Et là, c'est même pas dans les prochaines années, c'est dès les prochains mois.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Calin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique. On peut vous lire notamment sur des dossiers transport et logistique, puisque c'est votre spécialité. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Écho sans frontières.
Merci beaucoup.
La Sud-Africaine Show, Mazzozzi, pour conclure cette première partie. Écho sans frontières revient juste après la chanson Oukou. Shut up.
Jozi aje ama nini Nye hamialiki Mbona mwenzaka nasema napenda lakini Yeye haniambi Haweza kashindwa kifungo hata miambili Ila hanipigiki Hivi sasemi tapida onge na mimi Kimi hanisigi Subiri Mimi kweli sitaweza Onani fili Kinuwezi kinyonesha Sasa mimi Mikisi unanipenda Ukuna mia Hendo mana nilienda
Sans frontières, Magali Homo, Romain Chanson, sur Média.
Soyez les bienvenus dans la seconde partie d'Écosse en frontières. À suivre, Francis Perrin et la chronique hydrocarbures. Le groupe italien Eni se renforce au Moyen-Orient. Long courrier et les prévisions de croissance attendues du FMI. Et puis un culture éco sur le business de l'eau minérale.
Et avant ça, on est en ligne avec Saad Ben Mansour. Bonjour Saad.
Bonjour Magali, bonjour Romain.
On va continuer sur la thématique des ports, Saad. On a vu avec notre invité que le groupe Bolloré Transport et Logistique a peu d'influence en Afrique du Nord. Le port de Tangemed lui échappe donc. Qui possède, Saad, la concession de Tangemed ?
Bah écoutez, Tangemed, comme on le sait, c'est un cas unique au Maroc. Il faut savoir que les ports au Maroc sont aujourd'hui gérés par une entité publique qui s'appelle l'Agence nationale des ports, hein, c'est une autorité qui fait office de régulateur, d'autorité portuaire, d'autorité en charge du développement des infrastructures portuaires hein, depuis la réforme de 2006. Mais Tangemed est un cas unique dans le sens où, contrairement à tous les ports du Maroc, Tangemed ne relève pas de cette agence publique. C'est un port qui est, on pourrait le dire comme ça, autonome. Hein, il est géré par une agence spéciale, hein, c'est TMSA, hein, Tangemed Special Agency. C'est une agence spéciale qui, elle, fait office d'autorité portuaire. C'est elle qui s'occupe de tout le développement, non seulement du port tout seul, c'est-à-dire il y a l'autorité portuaire, mais TMSA aussi gère la partie zone industrielle. TMSA gère aussi les services à l'intérieur du port. Et donc TMSA, en fait, c'est une sorte de partenariat public-privé. C'est une société à directoire, à conseil de surveillance, où il y a et le public, l'État marocain, mais aussi des institutionnels privés, notamment la CDG. On trouve aussi des banques, des assurances, on trouve aussi l'ONE. Et donc cette société qui est mixte, ben c'est cette société qui gère aujourd'hui le port Tangemed. C'est une sorte de port autonome, voilà, tout simplement.
Saad Ben Mansour, directeur de publication d'Aujourd'hui le Maroc. L'un des objectifs du groupe Bolloré, on l'a vu, c'est de fluidifier au maximum le transport de marchandises du port vers l'intérieur des terres. Qu'en est-il des ports marocains ?
Bah écoutez, aujourd'hui, du moment que qu'on parlait à l'instant même de Tangemed, mais il faut savoir aussi aujourd'hui que Tangemed, et vous le savez vous êtes mieux que moi, vous êtes à côté à Tanger, aujourd'hui Tangemed est connecté à un réseau autoroutier, il est desservi par une ligne ferroviaire. Le port lui-même, il a derrière lui une sorte de bassin industriel, plus de 1000 hectares. Tangemed aussi, entre autres exemples, Tangemed est directement connecté à une usine comme celle de Renault, donc pour fluidifier justement les flux de marchandises, de conteneurs, de marchandises en vrac, etc. Mais il n'y a pas que Tangemed. À Casablanca, vous le savez, il y a ce qu'on appelle le corridor entre le port de Casablanca et le port sec, hein, la plateforme de Znetza, une sorte de corridor pour justement permettre aux opérateurs, pour désengorger d'abord le port de Casablanca et pour permettre à des opérateurs d'avoir une plateforme loin du port, mais qui est desservie, qui est directement reliée au port de Casablanca. Il y a aussi, on l'oublie, il y a le port de Jorfosfar qui est au sud, un peu plus au sud de la ville d'El Jadida. Ben, aujourd'hui, le port de Jorfosfar est relié, on l'oublie, il est relié directement à la mine de Khouribga du phosphate, à travers un convoyeur de plus de 200 km, hein, qui permet d'acheminer de la matière première et des produits aussi de la roche, comme on dit, depuis la mine de Khouribga, qui est à plus de 200 km, jusqu'au port de Jorfosfar. Donc voilà, c'est les ports, finalement, se retrouvent seulement des points vers lesquels il faut acheminer avec la plus grande fluidité des matières. Et aujourd'hui, on vient de les citer quelques cas qui démontrent qu'on peut avoir cette fluidité quand on y met les infrastructures nécessaires. Et voilà, donc on a parlé de Jacques Rosfer, on peut aussi parler prochainement du cas de Nador Westmed, hein, qui sera relié à l'axe autoroutier Fès-Oujda.
Saad Ben Mansour, en 2008, l'autorité des ports du Maroc a mis en place le projet PortNet. Alors c'est un portail qui permet de faciliter les démarches en ligne. À quoi ça sert concrètement et est-ce que c'est efficace?
Alors PortNet, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aujourd'hui PortNet est une sorte de plateforme digitale. Avant, pendant longtemps, le passage portuaire posait, pas seulement au Maroc, mais le passage portuaire a toujours posé un problème. Parce qu'il faut savoir que dans un port, il y a une multitude d'intervenants, d'opérateurs. Hein. C'est-à-dire quand un conteneur arrive à quai, il faut savoir que par exemple l'exportateur ou l'importateur doit faire il a une gymnastique, hein, carrément à faire entre la douane, la capitainerie du port, les administrations chargées du contrôle de marchandises, etc. Et donc tout cela pendant longtemps, avant même la réforme de 2006, pendant longtemps le passage portuaire posait un gros problème au Maroc, dans le sens où le passage portuaire est un facteur clé de la compétitivité, de la connectivité d'une économie. Et donc du coup depuis 2007, PortNet est une sorte de plateforme digitale où il y a de l'échange de documents. C'est-à-dire aujourd'hui, un opérateur qui reçoit de la marchandise au port de Casablanca n'est plus obligé. Il n'est plus obligé de faire toute la gymnastique entre les différentes administrations. Il y a dans cette plateforme, on trouve tout le monde est connecté, et les banques, et les administrations, et les prestataires de services. Et donc, du coup, les documents sont partagés. Et donc, c'est une sorte de guichet unique. Et ce guichet unique, il permet à toutes les administrations, à tous les opérateurs, à toute la communauté portuaire, de partager en temps réel des documents de manière à ce que, de sorte à permettre une plus grande fluidité et à surtout, c'est cela l'objectif, à faire gagner du temps aux opérateurs de manière à ce que le passage portuaire soit écourté. Le nombre de jours pour dédouaner une marchandise ou pour faire sortir une marchandise soit le plus court possible, et c'est cela la finalité.
Merci Saad Ben Mansour. On peut vous lire, je le rappelle, du lundi au vendredi dans Aujourd'hui le Maroc.
Merci Saad. Avec nous au téléphone, Francis Perrin pour la chronique hydrocarbures. Bonjour Francis.
Bonjour Romain, bonjour Magali, ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Francis, chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat. Alors Francis, ces derniers jours, le groupe énergétique italien Eni a signé plusieurs accords pétroliers au Moyen-Orient. Quels sont les pays concernés ?
Oui, Romain, c'est un véritable feu d'artifice pour Eni, le grand groupe pétrolier, gazier et énergétique italien. Entre le 12 et le 14 janvier, c'est-à-dire trois jours seulement, ils ont signé quatre accords pétroliers ou gaziers au Moyen-Orient. Un au Sultanat d'Oman, un à Bahreïn et deux au sein des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est une fédération de 7 États. Donc parmi ces 7 pays, il y a un accord qui a été signé à Abu Dhabi, qui est le principal émirat de la Fédération des Émirats arabes unis, et le dernier, donc le quatrième, un à Sharjah, un autre des Émirats moins connus, des Émirats arabes unis. Donc c'est vrai qu'en 3 jours, c'est véritablement effectivement un feu d'artifice pour le groupe italien qui renforce considérablement son implantation au Moyen-Orient.
Alors Francis, quelle est l'importance plutôt, enfin dites-nous d'abord sur quoi portent ces accords ?
Le point commun entre tous ces accords, bon, ces quatre accords romains, c'est que ce sont des accords d'exploration. Eni est un très bon explorateur, notamment sur le continent africain, en Méditerranée orientale, également au Moyen-Orient de façon croissante. Et Eni fait le pari que ses compétences en matière d'exploration et le potentiel évidemment considérable pétrolier et gazier de la région du Moyen-Orient, tout ceci va lui permettre de faire des découvertes dans les années qui viennent. On signe des accords, ça c'est en janvier 2019, nous y sommes. Ensuite, on engage des études. Ensuite, on fait des forages. Tout ceci prend quelques années. C'est ça un petit peu la durée de l'exploration. Donc, dans les mois et les années qui viennent, Eni tentera sa chance par des forages suite à ses accords d'exploration dans ces quatre pays, Oman, Bahreïn, Sharjah et Abu Dhabi. Alors, comme toujours dans l'exploration, on ne gagne pas à tous les coups. C'est moins risqué que la loterie, mais c'est quand même une activité risquée. Beaucoup de forages débouchent sur des forages secs, comme disent les pétroliers dans leur jargon, c'est-à-dire qu'on ne trouve ni pétrole ni gaz naturel. De temps en temps, on trouve quelque chose, mais quand on trouve quelque chose, notamment au Moyen-Orient, cela peut représenter à terme beaucoup d'argent.
Francis Perrin, merci beaucoup. J'étais curieux, j'avais d'autres questions à vous poser, mais on a une petite dégradation de la ligne téléphonique. Alors on va en rester là, on aura l'occasion d'en parler plus tard de Eni au Moyen-Orient. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, Francis.
À suivre dans Écho sans frontières, l'ONG Long Courrier pour un tour d'horizon de l'actualité économique internationale et le Culture Écho. On revient juste après Nick Waterhouse et son morceau Song for the Winners.
Waterhouse sur Medi, un song for the winners. On passe à Long Courrier. Long Courrier, c'est l'actualité du monde économique qui vous a échappé.
Long Courrier, l'économie qui nous a échappé.
Il est encore un peu tôt pour mesurer peut-être l'impact économique du shutdown aux États-Unis et des gilets jaunes en France, Magali.
Oui, c'est le FMI qui le dit. Le Fonds monétaire international doit publier ce lundi ses nouvelles prévisions de croissance mondiale. Plus ces événements vont durer, plus l'effet sera important. Voilà ce qu'a déclaré Gary Rice, porte-parole de l'institution, qui fait un parallèle entre les deux. Dans ses calculs, le FMI prend aussi en compte la situation politique au Royaume-Uni avec le Brexit. L'institution a d'ailleurs laissé entendre qu'elle abaisse encore une fois ses prévisions. En octobre déjà, elle avait réduit à 3,7% pour 2018 et 2019 contre 3,9% précédemment.
Et c'est aussi en raison de ces événements que les dirigeants français et américains ou encore britanniques n'iront pas à Davos.
Ouais, Trump, Macron, mais ne se croiseront pas dans les montagnes suisses. Le Forum économique mondial s'ouvre mardi et jusqu'à vendredi, 3000 participants sont attendus, dont 65 chefs d'État ou de gouvernement. Un beau casting tout de même, puisque ce sera la première sortie internationale du nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro. Shinzo Abe, le premier ministre japonais, ou encore la chancelière allemande seront également présents.
Magali, en 2018, on a franchi un cap.
Ouais, dans l'achat d'applications mobiles. L'année dernière, on a dépensé à travers le monde plus de 100 milliards de dollars. En deux ans, le chiffre d'affaires, le chiffre a doublé. C'est un marché qui a donc le vent en poupe. Et ce qui booste ce marché, ce sont les jeux, qui représentent 74% des dépenses totales des utilisateurs en 2018. Vous connaissez peut-être Helix, Jump ou encore Subway Surfers. Et puis toujours en tête des ventes, les éternels Candy Crush, Clash of Clans ou Pokémon Go. Hormis les jeux, on consomme aussi beaucoup de streaming comme Netflix. Et en France, ce qui génère aussi beaucoup d'argent, ce sont les sites de rencontres comme Tinder ou Adopte un Mec.
Save the date à partir de lundi et toute la semaine, c'est à Casablanca qu'il faut être.
Les Impériales, un grand raout du marketing, de la communication, des médias et du digital. Cette année, le thème, les défis des marques du Maroc. L'idée, c'est de réunir plusieurs acteurs du secteur pour que des partenariats soient créés entre ceux qui offrent des services et ceux qui sont en demande. Cette semaine verra également le lancement du musée de la publicité, un siècle de publicité au Maroc.
La publicité est un patrimoine culturel national. C'est cette évolution-là qui va nous montrer comment notre culture, c'est un vrai miroir de la culture marocaine. Mmh. On a mis en avant, et d'ailleurs depuis 1910, je pense, les premières affiches que nous avons pu recueillir, les premiers spots publicitaires qui ont été diffusés. Tout ça est retracé sur le musée. Par la suite, on aura une projection au cinéma pour mettre en avant toute la créativité marocaine. Et d'ailleurs, l'un des moments phares de cette projection, c'est le showreel Maroc. Mm-hmm. Et c'est quoi? C'est une bande-annonce de tout ce que le Maroc sait faire dans la publicité.
Voilà, vous venez d'entendre Anouar Sabri, c'est le président de l'association Les Impériales qui organise donc ce rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Magali, c'était Long Courrier. Vous restez avec nous Magali, puisqu'on va parler d'un secteur pour lequel Bolloré ne s'intéresse pas encore, c'est celui de l'eau. L'or bleu qui n'a jamais aussi bien porté son nom, certains grands groupes s'arrachent ce secteur. C'est le cas bien sûr de Coca-Cola, de Pepsi, qui ne se concurrencent plus sur le terrain des sodas, mais sur le terrain de l'eau. C'est le Culture Éco.
À ma droite, Coca-Cola et sa Smart Water. À ma gauche, Pepsi et Life Water. Terminez les sodas trop caloriques, trop sucrés, trop chimiques. Revenons aux sources et buvons de l'eau. Pensez à son bien-être, c'est la tendance.
Ne mange pas trop gras, trop sucré,
trop salé.
En 2016, les Américains ont pour la première fois acheté davantage d'eau en bouteille que de soda. Coca, en quête d'une nouvelle image, a bien flairé la chose.
What makes smart water so smart? It starts with a little inspiration from the clouds, nature's pure source of water.
Smart water, une eau, un morceau de nuage dans votre verre, épurée, simple et à destination des millennials, des jeunes. Mais qu'est-ce qu'elle a de si incroyable, cette eau? C'est quoi déjà? C'est le calcium ou le potassium? Ou non, le chlorure, non, les chlorures, les... Ou non, ou bien les nitrates. Bah, du coup, je sais pas trop, en fait. Bah, pas grand-chose, en fait. C'est de l'eau, pas de vertu particulière.
Oh, mon eau minérale.
Puisée dans le nord de l'Angleterre, elle passe au travers d'un filtre de charbon, puis elle est évaporée par distillation avant d'être récupérée sous forme liquide. On lui ajoute ensuite quelques minéraux. Si la marque vient d'arriver en France, elle a déjà été lancée dans 17 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, en 2014. En fait, ça fait depuis le début des années 2000 que Coca s'intéresse au marché lucratif de l'eau. L'entreprise avait lancé à l'époque Dasani pour concurrencer le succès de l'Aquafina, produite par Pepsi, bien sûr. Puis en 2007, Coca-Cola a fait l'acquisition de Glaceo pour 4,1 milliards de dollars. L'eau Coca est présente aussi dans les rayons des commerces marocains avec la marque Ciel. Smartwater, plate ou gazeuse, c'est 1,50 euros la bouteille de 600 ml. Face à Smartwater, Pepsi a dégainé Lifewater, une eau purifiée à peu de choses près la même. Tout se joue en fait sur le design de la bouteille, épurée là aussi, mais colorée. Coca et Pepsi se retrouvent sur le ring, sur le terrain des petites bulles, les eaux gazeuses.
Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous.
Toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
PepsiCo et ses canettes bubbly, Coca-Cola et la marque mexicaine Topo Chico. Le duel des titans est donc loin d'être terminé.
Bololo chez Bolloré, Bolloré ton empire pitoyable, c'était le dossier du jour à retrouver sur le site de media.com et en podcast dans nos archives. Vous trouverez également notre émission sur l'empire de la boisson en Afrique. Oui, on avait aussi parlé d'un empire, c'était celui de l'empire Castel. Eh bien, c'est dans nos archives sur media.com.
Oui, Twitter, Spotify, Deezer, notre modeste empire.
Très modeste empire.
C'est temps sur la toile, venez nous rendre visite, ça nous ferait plaisir. À la semaine prochaine.